eh bien, elles vont au tombeau. Et quand dans la Bible, vous avez succession de soir et matin, évidemment, vous êtes face à un récit de création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et c'est pour cela qu'on a lu dans la liturgie le récit de la création et que dans le chant qui a suivi ce récit de la création, le parallèle a été fait admirablement par l'auteur de cette parallèle entre la création de Genèse et la création que nous sommes en train de vivre par la résurrection du Christ. Il y a quelque chose de neuf. Il y a quelque chose de neuf et à la fois qui nous échappe. C'est intéressant de voir que personne n'a été témoin de la création du monde, évidemment. Mais personne non plus n'a été témoin du moment de la résurrection. Parce que ça nous échappe. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Il y a une nouveauté qui arrive, un commencement qui est aussi un accomplissement. Et là, le Seigneur veut nous emmener vers autre chose. On voit bien qu'elles allaient vénérer un mort, elles allaient embaumer le corps de Jésus, prendre soin. Et puis, c'est la vie qui les surprend. Et je pense que dans notre vie de baptisés, ça nous donne une manière particulière de regarder la réalité. Parfois, on est trop attiré par des choses mortifères qui nous tirent vers le bas, que ce soit dans notre vie, dans notre existence, celle des autres, dans l'actualité, tout va mal et on voit que notre regard se laisse attirer par la négativité. Et là, le Seigneur leur demande à ces femmes, comme il nous demande à nous aussi, d'avoir un regard neuf sur toute la réalité du monde. Non pas que nous ne voyons pas la difficulté, la présence du mal, bien sûr qu'il existe, de même que Marie-Madeleine, vous vous rappelez, celle qui avait été libérée de 7 démons, elle sait très bien que le mal existe. Elle l'a vécu dans sa propre chair, mais le Seigneur, en la faisant se lever tôt le matin, lui donne d'avoir un autre regard sur sa propre existence. Et je trouve que ce regard de vie vivifiant que la résurrection de Jésus nous donne, c'est quelque chose que l'on doit transmettre. Nous en sommes les porteurs, nous en sommes aussi responsables. Combien notre actualité, au contraire, nous montre que des choses négatives, des souffrances, etc. Et peu sont ceux qui ont un regard neuf en disant « Là germe, déjà, il y a en germe, dans ce tombeau, il y a une vie qui n'aura pas de fin. » Comme dans nos vies à nous, en germe, il y a une gloire qui n'aura pas de fin. Alors oui, c'est une autre manière d'envisager événements des personnes. Nous ne sommes pas face à un tombeau, face à un mort, nous sommes face à un vivant. Et c'est intéressant de voir qu'en hébreu, déjà sans avoir la révélation du Christ, le mot cimetière se dit en hébreu la maison des vivants. C'est étonnant. Comme si déjà dans l'ancienne alliance, on ne peut pas se résoudre à laisser la mort triompher. Et je trouve que le lieu où nous sommes est un lieu tellement déjà beau, tellement mythique, extraordinaire, cette ancienne infirmerie cistercienne que l'on appelle la salle des morts, permettez-moi de la rebaptiser et de dire nous sommes dans la salle des vivants. Des personnes, des moines, avec les moyens médicaux de l'époque, ben c'est les derniers murs qu'ils ont vus avant de contempler la Jérusalem céleste. C'est pas rien, c'est pas rien. Nous sommes précédés par ceux qui ont contemplé ces murs et contemplent la Jérusalem céleste. Nous sommes dans la salle des vivants. Pour que nous soyons nous aussi vivants et que nous renoncions, et c'est on va faire notre profession de foi, de renoncer à Satan, c'est-à-dire de renoncer à l'esprit du monde, de renoncer à ce qui nous tire vers le bas, de renoncer. Il y a des choses dont on ne veut plus dans notre vie, dont on ne veut plus. Et c'est bien en ce soir qu'on dise au Seigneur, ça, c'est fini dans ma vie, c'est fini. Je ne veux plus parce que ça m'a trop fait souffrir, ça fait trop souffrir mes proches. Cette attitude de péché m'a trop éloigné du Seigneur. Et nous voulons le redire aujourd'hui, en ce soir, avec une force. Nous choisissons la vie. Vous le savez, dans Deutéronome, le Seigneur met devant toi la bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie. Choisis la vie. Mais choisir la vie pour nos contemporains, et on le voit aussi dans l'actualité pour les personnes qui sont en fin de vie, bien choisir la vie pour nos contemporains, ça n'a strictement rien d'intuitif. Il faut que nous, disciples de Jésus, nous ayons une parole forte pour dire que toute vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. La fin de vie, c'est aussi une vie. Comme le début d'une vie, c'est aussi une vie. Et on voit bien cette culture de mort qui s'oppose à la résurrection du Christ. On voit bien cette manière d'être vivant que le Seigneur nous a léguée, qui s'oppose à l'esprit du monde. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous avons, à partir de la résurrection du Seigneur, de cette expérience que nous sommes des vivants, non pas uniquement biologiquement, bien sûr nous le sommes biologiquement, mais spirituellement, parce que habité par la grâce du baptême, et le chrétien portant lui-même plus que lui-même, le chrétien portant lui-même plus que lui-même, il est habité par une présence, il est habité par la présence de Dieu, il est un vivant. Et chaque fois qu'un baptisé est présent, cette puissance de vie qui vient du tombeau vide, cette puissance de vie de la résurrection habite en même temps que le baptisé le lieu où il se trouve. C'est notre foi. Et c'est urgent d'en témoigner. C'est urgent d'en témoigner. De ne pas laisser d'autres voix nous susurrer à l'oreille ou susurrer à l'oreille de nos contemporains une désespérance. Parce que c'est de ça dont il s'agit. La résurrection du Christ nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est l'espérance, c'est la confiance dans les paroles du Seigneur. Et aujourd'hui, nous ne savons que trop, espérance et confiance sont maltraitées, ne sont pas prises en compte. Oh non, c'est des gens qui ne sont pas réalistes qui pensent ça. Notre monde, voilà, de toute façon, va à la catastrophe, etc. Alors, c'est sûr que si on continue avec cette culture de mort, il est probable que nous allons à la catastrophe. Mais est-ce qu'au fond, le Seigneur nous dit, là où toi tu es, comme baptisé, disciple de Jésus, tu es témoin d'une espérance, d'un amour qui est plus fort que la mort. Reprenons juste conscience de ça. Beaucoup de choses dépendent de nous. Notre parole est attendue. Notre parole est attendue, plus que nous le croyons. Beaucoup plus. Il y a une forme d'auto-inhibition des disciples de Jésus qui est mortifère. On n'ose pas. Eh bien, si cette parole-là qui vient du tombeau vide et de la gloire de Dieu n'est pas prononcée, eh bien, d'autres paroles, elles, sont prononcées. Évidemment, celles qui conduisent à la mort. Alors, la résurrection du Christ, c'est un enjeu pour nous. C'est un enjeu vital de nos sociétés et nous sommes invités à être les témoins, et c'est pour ça que dans le feu que nous avons vu, et ensuite on a allumé, c'était très beau de voir ça. Vous avez, chacun prenait avec sa petite, son petit cierge, voilà, du feu, du cierge pascal lui-même, allumé au feu pascal, hein, qui est le signe du Christ, toujours vivant et toujours éclairant. Eh bien, on voyait chacun avec sa petite lumière. Et tout à l'heure, au moment de prononcer notre foi, on va réallumer aussi nos cierges. Mais la puissance d'une petite lumière dans la nuit, on n'a pas idée. Plus il fait noir, plus la petite lumière est puissante. Évidemment. Et plus il dépend de nous, de l'allumer au cierge pascal, et ce qu'on a fait symboliquement, eh bien nous le faisons réellement chaque fois que nous célébrons les sacrements, chaque fois que nous participons de l'Eucharistie, nous recevons le pardon de Jésus. C'est cette lumière-là, intérieure, qui s'allume dans la nuit. Nous sommes les témoins de l'aurore, comme Marie-Madeleine, qui s'est levée de grand matin, témoin d'une recréation, d'une nouveauté, de quelque chose qui n'est pas comme avant, quelque chose d'inattendu. C'est vraiment des disciples de Jésus que naîtra l'inattendu. Nous en avons un exemple dans l'histoire, c'est la réconciliation franco-allemande. Absolument inattendue, mais inattendue complètement. Après des guerres successives tellement meurtrières, déjà à commencer par les guerres napoléoniennes, etc., pratiquement de 150 ans de guerre entre deux pays frontaliers. Et puis, il y a eu une réconciliation. Mais qui était à l'origine de cette réconciliation? Eh bien, c'était des grands chrétiens qui ont dit, on ne peut plus monter aux extrêmes comme on est allé. On ne peut plus laisser la violence prendre le dessus et faucher des centaines de vies dans la force de l'âge. Il y a quelque chose qui ne se résout pas, ça. Il y a autre chose, et c'est là que la réconciliation franco-allemande est arrivée, c'est là que l'Europe aussi s'est fondée, de Gasperi, Adenauer, sont aussi des grands chrétiens qui veulent laisser le côté nationaliste et pour dire ça nous a fait trop de mal. Vous voyez ? Avec Schumann, les trois, ils ont osé, et il y a eu un moment très fort, j'écoutais ça il n'y a pas longtemps, mais où le général de Gaulle a invité à colomber les deux églises à Adenauer pour un Te Deum. Et les deux, plongés dans leur missels, côte à côte, écoutaient et participaient de la célébration. Je trouve que ces gestes-là sont des gestes tellement forts qui sont directement liés à la résurrection du Christ. Il y a une nouveauté dont nous sommes porteurs et que nous ne pouvons pas taire. Alors tous, nous ne sommes pas Adenauer, de Gasperi, Schumann, ni le général de Gaulle, certainement. Mais chacun là où il est, il a une parole possible pour faire de cette terre la terre des vivants. Amen.